Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Une trentaine de chefs d'État sont réunis aujourd'hui et demain à Paris pour la deuxième édition du Forum pour la paix organisé par la volonté d'Emmanuel Macron. Alors qu'il est exactement à la moitié de son mandat, le président français, comme sa fonction l'exige, est très présent à l'international entre sommets européens, sommets internationaux et rencontres bilatérales. De même, il fait entendre sa voix sur les différentes crises qui secouent le monde contemporain, de l'Iran à la Syrie, en passant par le Sahel, les incendies en Amazonie et la crise climatique. Mais être présent et audible ne signifie pas forcément être efficace. Quel bilan international pour Emmanuel Macron à mi-mandat ? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Maxime Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diplomate, ancien ambassadeur, professeur à l'ESCP Europe et auteur du Que sais-je, la politique étrangère de la France. C'est aux éditions Humaine 6. Et Guillaume Devin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po Paris, chercheur au CERI, le Centre de recherche internationale de Sciences Po, et auteur du livre Les organisations internationales paru chez Armand Collin. 2 ans et demi de présidence, ça donne un petit peu de recul déjà. Est-ce qu'il existe un macronisme à l'international ? Et si oui, comment vous le définiriez, Maxime Lefebvre ?
Je crois que c'est un mélange à la fois de retour à des fondamentaux gaulo-mitterrandiens, la tradition d'une France qui veut parler au monde, qui veut avoir un petit peu son autonomie de pensée dans les relations internationales. Et en même temps, c'est aussi un président qui est ancré dans la sphère occidentale, c'est-à-dire les valeurs libérales occidentales, les valeurs démocratiques, par exemple contre le populisme. Et donc il y a un petit peu un mélange des deux. Je pense que c'est encore un peu tôt pour définir définitivement, mais l'accent mis sur le multilatéralisme et l'accent surtout mis sur l'Europe. Ça, on peut dire que c'est un élément très fort chez lui. Elisabeth Guigou disait que c'était le plus européen des présidents français depuis François Mitterrand. Je crois que ça caractérise assez bien les choses.
Vous diriez, vous aussi, Guillaume Devin, qu'Emmanuel Macron marche, ou en tout cas essaie de marcher dans les pas du général de Gaulle en faisant entendre une voix spécifique de la France ?
Je crois que ce qui vient d'être dit est très juste. Il y a 3 axes forts qui avaient d'ailleurs été présentés par le président Macron lui-même lors de la dernière conférence devant les ambassadeurs. D'une part, essayer d'être une puissance d'équilibre, c'est-à-dire une puissance non alignée, une puissance médiatrice, une puissance qui puisse jouer un rôle d'honnête courtier. Dans des crises difficiles comme l'Iran, mais également la Syrie, et puis peut-être aussi un certain rapprochement ou une certaine stabilisation avec la Russie. Deuxièmement, l'axe fort du renforcement de la souveraineté européenne via une impulsion soulignée pour une défense européenne qui ne déstabilise pas l'Alliance Atlantique, mais qui s'inscrive progressivement dans une complémentarité avec l'OTAN, quitte à la dépasser au bout d'un certain temps. Et puis le troisième axe fort, sur lequel je reviendrai peut-être, parce qu'il me paraît important et peut-être un peu plus critiquable qu'on ne le dit, engagement fort pour le multilatéralisme.
Vous parlez d'une voix spécifique de la France, un peu comme le général de Gaulle, Maxime Lefebvre. C'est une voix qui parle à tous, même à ceux qui ne se parlent pas entre eux. C'est cet aspect d'être capable de parler à tout le monde qui est important.
Oui, ça c'est quelque chose qui était déjà fort au moment de la campagne électorale, quand le président Macron, qui n'était pas encore président, donc cherchait à être élu. Et cette idée d'une France qui parle à tout le monde, ça c'était absolument capital. Par exemple, dans la crise syrienne, il y a eu la volonté très vite d'essayer de parler à tous les partenaires, à la Russie, mais y compris aux Syriens, aux voisins de la Syrie. Donc ça c'est quelque chose qui me semble tout à fait intéressant. Aujourd'hui, en matière européenne, par exemple, ce qui est très frappant, c'est que au-delà de la volonté de redéclencher le moteur franco-allemand, de le refaire démarrer, il y a aussi la volonté de parler à tous les partenaires européens. Regardez le dernier G7, la manière dont il a réussi aussi à organiser une sorte de pas de deux avec Donald Trump, là aussi, ça montre cette volonté de parler avec tout le monde, même avec ceux avec lesquels on n'est pas d'accord.
Sur le plan européen, Guillaume Devin, vous tireriez quel bilan ? C'est aussi positif que ce que dit Maxime Lefebvre ?
Oui, je crois que sur le plan européen, tout de même, on a un président qui essaye de pousser les feux, selon l'expression du général de Gaulle, pousser les feux en matière de défense. Et c'est une priorité, c'est une nécessité, c'est un objectif indispensable dans les années à venir. Non pas que l'OTAN soit dépassée, mais enfin, l'OTAN est ébranlée de différentes façons. Les États-Unis regardent de plus en plus vers le Pacifique, même s'ils restent engagés et intéressés par les questions européennes, nous devons pouvoir compter sur nos propres forces. Et donc, je crois que l'initiative de défense européenne... Ces différentes déclinaisons constituent un objectif positif.
Maxime Lefebvre, les dissensions avec l'Allemagne apparaissent au grand jour néanmoins depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Encore très récemment sur l'OTAN dont on parlait à l'instant, en état de mort cérébrale selon le président, il n'a fallu que quelques minutes à Angela Merkel pour marquer un désaccord très net, très vif.
Alors c'est vrai qu'il y a des différences, on peut pas les nier, entre la France, l'Allemagne, mais aussi entre la France et d'autres partenaires. Je crois que le président a d'emblée fixé la barre très haut en parlant de souveraineté européenne avec son discours de la Sorbonne en 2017, avec des objectifs extrêmement ambitieux en matière de politique européenne.
Refondation de l'Europe, hein, c'est ce qu'ils disent.
Voilà, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut former la base d'un projet commun. Ça a été difficile avec l'Allemagne. La négociation du traité d'Aix-la-Chapelle a été difficile, mais le traité d'Aix-la-Chapelle a été produit. La négociation a finalement abouti à un traité avec quelques innovations. On sait que c'est difficile de bouger avec les Allemands sur beaucoup de sujets. Il y a beaucoup d'autres partenaires qui bloquent, y compris sur ces questions de défense. Mais ce qu'il a réussi, c'est la manœuvre de nomination dans les institutions européennes. C'est-à-dire avec Ursula von der Leyen, qui est quand même quelque part un choix personnel, le fait qu'on ait un président belge du Conseil européen, le fait qu'on ait un Espagnol qui est toujours proche de la France comme haut représentant, une Française à la tête de la Banque Centrale Européenne, il s'est mis en position d'avoir des institutions européennes qui peuvent porter cet agenda ambitieux d'une souveraineté européenne, pas seulement en matière de défense, mais dans le domaine économique, de la politique industrielle, du domaine numérique, également dans le domaine juridique pour faire face aux sanctions territoriales américaines, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent maintenant se faire et qui peuvent essayer d'être portées dans cette deuxième partie de mandat.
Guillaume Devin, ce rôle central en Europe...
Alors, on verra si cette stratégie institutionnelle est payante. Hein. Il y a aussi beaucoup de réserves, beaucoup de résistances. On l'a vu avec Madame Goulard, hein, quand même.
Oui,
Qui n'est pas
passée.
Quelques hic. Et puis, sur la question de la défense, le dossier est extrêmement délicat parce que, vous le savez, pratiquement tous les pays de l'Est de l'Union européenne n'y croient pas et ne voient que comme seule garantie sécuritaire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Donc il va falloir les rallier, ça risque de prendre un certain temps, ça risque peut-être aussi de passer par des périodes de blocage. Donc la direction est bonne, mais le chemin risque d'être laborieux.
Oui, quand je parlais de quelques hic, Maxime Lefebvre, pardonnez-moi d'insister, mais le rejet de la candidature française à la Commission, Sylvie Goulard, il a eu du mal à être suivi sur les délais à accorder sur le Brexit. Est-ce que, quelque part, il a un rôle central, mais est-ce qu'il n'est pas un petit peu seul, Emmanuel Macron, en Europe ?
Parfois, il prend des positions qui sont des positions un peu, je ne dirais pas forcément extrêmes, mais qui sont des positions fortes. Et forcément, quand on prend des positions fortes, après, il faut réajuster l'ensemble des positions pour trouver un compromis. Mais le fait qu'un pays, par exemple la France, dit « on ne peut pas étendre indéfiniment les délais du Brexit », c'est pas une mauvaise chose en soi. Ça fait partie d'une négociation d'ensemble avec les Britanniques pour dire « bon, on est prêt à vous donner un délai technique s'il faut organiser de nouvelles élections ou parfaire un compromis de négociation pour l'accord de sortie, mais il n'est pas question de continuer tous les ans à repousser le Brexit en attendant que les Anglais soient au clair de ce qu'ils veulent. Donc là, il a joué un rôle qui n'est pas forcément négatif pour obtenir un compromis d'ensemble.
L'un des autres grands partenaires de la France, et vous le disiez, Guillaume Devin, ce sont les États-Unis. Donald Trump, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est pas facile à suivre. Mais est-ce que Emmanuel Macron tente malgré tout de maintenir cette alliance en vie ?
Alors d'abord, la parole est forte, hein, pour revenir sur ce que vous disiez, la parole est forte quand le milieu est silencieux. C'est-à-dire que la parole du président Macron est forte parce qu'il faut bien dire qu'il y a peu de leadership qui s'affirme au sein de l'Union européenne. Donc, ça rend sa parole encore plus forte, puisque c'est le seul qui fixe quelques échéances et quelques objectifs.
Oui, Angela Merkel est à son crépuscule politique.
Voilà, bon, entre autres, et puis les Britanniques s'en vont, et puis bon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le disait tout à l'heure Maxime Lefebvre, dans cette diplomatie que le président lui-même appelle diplomatie d'équilibre, il s'agit de parler à tout le monde. Donc, on n'est pas d'accord avec le président Trump, mais on continue à parler avec lui. On essaye de le convaincre de ne pas sortir de l'accord de l'Iran, de ne pas sortir de l'accord de Paris. Bon, ça ne marche pas, mais on continue à conserver le dialogue. Ça, c'est de bonne diplomatie. Si la diplomatie existe, c'est pour continuer à parler. Sinon, c'est pas la peine d'avoir des diplomates. Et le premier d'entre eux, c'est le chef de l'État.
Maxime Lefebvre, vous êtes diplomate. Alors peut-être que je sors un petit peu du sujet, mais Donald Trump, il est un peu difficile à suivre pour la France et pour tout le monde d'ailleurs.
Oui, pour tout le monde, parce qu'il a un côté imprévisible, et en plus il a des positions qui sortent des fondamentaux, même aux États-Unis. En même temps, moi je dirais que Donald Trump n'a jamais fait de sortie de route irréversible dans sa politique. Il est freiné par son establishment, par son ministre des Affaires étrangères, etc. Par exemple, sur l'OTAN, il a dit qu'il allait sortir de l'OTAN, mais en fait, il l'a pas fait. Et Mike Pompeo a tout récemment rappelé que l'OTAN, c'est fondamental pour, justement, après les propos de Monsieur Macron. Et puis, sur d'autres sujets, sur la Russie, par exemple, il n'a pas pu aller très loin, alors qu'il voulait se rabibocher avec Poutine. Donc, en réalité, le président Trump, il y a un côté imprévisible, il faut savoir le prendre, et le président Macron a montré qu'il savait mettre les formes et un peu d'habileté pour réussir des rencontres avec lui, mais en même temps, il n'a pas non plus pour le moment mis le monde à feu et à sang.
La difficulté avec les États-Unis, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron tente très ouvertement depuis quelques mois de réintégrer la Russie dans le jeu international, Guillaume Devin ?
Non, je pense que la réintégration de la Russie...
Elle est de toute façon dans le jeu international, bien sûr. Mais...
Oui, et puis la réintégration de la Russie dans le jeu européen, c'est aussi un objectif qui consiste à essayer de stabiliser la situation européenne. Tant que la situation européenne ne sera pas stable, l'Union européenne sera fragile. Donc, il y a un souci de réalisme ici, qui est de dire on a un très grand voisin, on a un très puissant voisin qui peut être très nuisible. À l'occasion, il faut essayer de pouvoir maintenir le dialogue avec lui.
Est-ce qu'il y a une façon de dire, Maxime Lefebvre, non pas de prendre le point de vue russe, mais de se mettre à la place du Kremlin, en se disant, depuis 20 ans, eh bien, les Occidentaux, et en particulier l'Union européenne, grignotent sur la sphère d'influence russe, et qu'on est peut-être allé un petit peu loin, il y a quelque chose comme ça ?
Bah, c'est assez clair, hein. Le président a tenu des propos clairs au moment de la conférence des ambassadeurs en disant effectivement qu'il fallait essayer de comprendre la Russie et il a une volonté de tendre la main, de prendre l'initiative pour essayer de voir comment on peut avancer, régler les difficultés, etc. La difficulté, c'est qu'après il faut négocier. Parce qu'il faut avoir des progrès concrets. Et actuellement, on essaie de négocier sur l'Ukraine et on a du mal, par exemple, à confirmer des progrès concrets sur le règlement de la crise ukrainienne pour réunir un format Normandie avec la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Donc, c'est un chemin qui sera laborieux, comme disait Guillaume Devin.
Que la France peut-elle obtenir d'un rapprochement avec la Russie, Guillaume Devin ?
Bah, une sortie de crise pour l'Europe. Une situation du point de vue de la sécurité européenne qui soit plus claire, mieux négociée, un retour au traité sur la réduction des armements et en particulier sur les armements nucléaires intermédiaires. Donc pas mal de choses du point de vue de la stabilité politique et de la sécurité du continent. et donc de ces pays, hein, et des pays qui sont à la lisière de la Russie et qui tremblent à chaque fois que les Russes prennent une initiative. Je pense aux pays baltes, par exemple, ou à la Pologne.
Emmanuel Macron, et vous le disiez, Guillaume Devin, entend défendre. Il se fait le héros, le défenseur du multilatéralisme depuis le début de son mandat. Avec quel succès, selon vous? On a commencé par Maxime Lefebvre, parce que je crois que vous avez anticipé une opinion un petit peu divergente, Guillaume Devin. Maxime Lefebvre, quel succès est-ce qu'il défend le multilatéralisme, Emmanuel Macron?
Moi, je considère que le premier succès, c'est sur le champ européen, parce que là, clairement, il a une ambition forte et on obtient des progrès, budget de la zone euro, on essaye de progresser sur des domaines de politique industrielle européenne. Enfin, je trouve que la consolidation du projet européen, c'est déjà un premier succès du multilatéralisme. Après, sur les autres sujets, comme l'OMC, par exemple, les questions commerciales, le sujet de l'Iran, même l'architecture de sécurité européenne avec la Russie, c'est forcément très compliqué parce qu'il ne suffit pas de prendre des initiatives, encore faut-il après réussir à trouver des compromis et des accords avec les autres. Et ça, c'est pas parce que la France dit quelque chose que ça suffit. Donc, il plante des germes, mais c'est pas pour autant que aujourd'hui on va sortir de cette crise du multilatéralisme qui est une crise réelle.
Guillaume Devin, je vous sentais un petit peu dubitatif sur cette relance du multilatéralisme.
Non, je partage tout à fait ce qui a été dit, mais ce qui me préoccupe effectivement, c'est que cette relance du multilatéralisme, elle se déroule en marge, selon les propos du président, des Nations Unies, très souvent. Tous les forums dont on parle, à commencer par le forum de Paris qui se déroule actuellement, mais ce sont bien d'autres initiatives, One Planet Summit, ou bien les groupes de contact ici ou là, etc., se déroulent en dehors de l'enceinte des Nations Unies, au prétexte que les enceintes des Nations Unies seraient bloquées. Le président l'a encore dit au Forum de Paris aujourd'hui. Et cela me paraît un pari assez risqué. Alors, on est invité à avoir une stratégie d'audace et de prise de risque. Mais là, je crois qu'en saupoudrant le multilatéralisme par tout un tas d'initiatives, on risque d'affaiblir les enceintes onusiennes qui ont quand même le mérite, un, de la transparence, et deux, d'une certaine légitimité et donc d'une certaine autorité. Parce que les One Planet Summit et les forums de Paris sur la paix, hein, ça réunit un paquet d'États qui sont là, qui sont disponibles et qui viennent pour produire des déclarations qui n'ont absolument aucune portée normative. Et donc, c'est préoccupant tout de même. Et je pense que l'audace et la prise de risque aujourd'hui, ça serait de revenir dans les enceintes multilatérales et de revenir avec des propositions audacieuses. Hein, de revenir avec des propositions audacieuses au sein du Conseil économique et social des Nations Unies, revitaliser un certain nombre d'organes subsidiaires de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je pense que ici, on n'est pas dans un ancien monde, mais dans un monde légitime qui demande à être revitalisé.
Maxime Lefebvre, le multilatéralisme doit rester dans le cadre des institutions internationales traditionnelles?
Oui,
est-ce qu'il faut faire autre chose?
Il faut de toute façon consolider les institutions multilatérales qui existent, celles des Nations Unies, l'OMC, enfin les autres organisations universelles. Après, il peut être utile parfois aussi d'avoir des initiatives à quelques-uns et d'essayer d'avoir des leviers de puissance pour pouvoir agir. Donc il faut pas, notamment quand on veut gérer des crises, par exemple la crise ukrainienne, ça se gère entre France, Allemagne, Russie, Ukraine. On peut pas forcément avoir tout le monde à bord. Et même sur des sujets qui sont plus d'essence juridique ou multilatérale, commerciale, dans le domaine numérique, parfois il faut savoir aussi prendre des initiatives. Par exemple, la taxe numérique, hein, on essaie de faire des progrès au niveau français, ça passe par exemple par l'OCDE.
Merci beaucoup Maxime Lefebvre. Merci à vous, Guillaume Devin, d'avoir participé à cette émission qui est terminée. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour. Florence Ponce à la coordination, Vanadis Feuille à la documentation et à la réalisation aujourd'hui. Fabrice Violet, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
priorité santé. Carole.